Jean 14, 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Est-ce qu'on veut dire ensemble, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On va dire ça ensemble. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Et on lit encore dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux que je parte, disait Jésus. Certains diront, mais j'aurais tellement voulu vivre du temps de Jésus. J'aurais pu rencontrer Jésus en chair et en os, face à face. J'aurais pu entendre, j'aurais pu me faire imposer les mains par Jésus. Si j'avais été je me serais certainement déplacé en Galilée, là où il exerçait souvent son ministère, ou à Jérusalem, ou en Judée. J'aurais fait l'expérience de ma vie, celle de rencontrer Jésus et de voir des miracles, de voir des choses se passer et d'être soi-même au bénéfice du Seigneur. Mais mon frère, ma sœur, ce matin, écoute la parole de Dieu. Il vous est avantageux que Jésus ne soit plus là. Vous réfléchissez, hein? Vous dites, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que lorsque Jésus n'est plus là? Car lorsqu'il est parti à l'ascension, il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Père est venu vers nous et il a dit, si je ne pars pas, le Consolateur ne vient pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le fait que le Saint-Esprit soit là, c'est un avantage pour chaque chrétien. Vous êtes avantagés. Vous êtes encore mieux lotis que les disciples du temps de Jésus. Parce que le Saint-Esprit vient pour le croyant, il est avec, mais plus que ça, il est en nous. Dieu, le Saint-Esprit, habite en toi. Nous devons rappeler ici que Dieu est en trois personnes. C'est déjà une doctrine qui est, dans certains milieux, un peu contestée, voire remise en question. Et je voudrais ce matin réappuyer sur cela. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On ne va pas faire une étude là-dessus. La Trinité est un mot que vous ne trouvez pas dans la Bible, mais la réalité de Dieu en trois personnes est une réalité évidente de la Genèse à l'Apocalypse. Il faudrait faire une étude détaillée là-dessus. On le fera certainement pour ceux qui veulent approfondir, avoir un tas d'arguments. Et le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas seulement une force ou une influence, c'est une personne. Il a une sensibilité, il inspire, il parle, on peut l'attrister, il guide, il enseigne, il nous avertit. Il y a beaucoup de mots que l'Écriture nous donne, il révèle, il témoigne, on peut lui résister, on peut l'attrister, etc. C'est une personne, c'est de manière, c'est clair. Avant la conversion, avant notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Il est à l'œuvre de manière souveraine. Jésus va dire, le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça marche. Il souffle quelque part, il y a une action quelque part. Le vent, tu ne peux pas le contrôler. Saint-Esprit, on ne peut pas le contrôler, tout comme lors de la Genèse, il était en train de se mouvoir sur le désordre originel, sur le tohu-bohu de la création qui n'avait pas encore émergé vraiment dans sa totalité. Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Et lorsque la voix de Dieu retentit, lorsque la parole de Dieu retentit, eh bien, le Saint-Esprit commence à agir à partir de là. Et à un moment donné, la parole de Dieu a retenti et le Saint-Esprit s'est mis en mouvement et il a dit, il faut que tu ailles trouver Walter là dans son petit coin, reculé de la Belgique profonde dans les Ardennes belges. Il n'a encore jamais entendu un vrai témoignage. Il faut que tu agisses et que tu l'attires et que tu le mettes en contact avec des vrais chrétiens afin qu'il soit touché. Saint-Esprit est en mouvement. Il est autour de nous avant notre conversion. Il nous pousse, il nous indique, il nous suscite quelque chose, il nous attire quelque part. Il n'est pas encore en nous, mais il est autour de nous. Il touche, il convainc. C'est la première chose qu'il va faire et il va toucher notre cœur. Les premiers disciples, lorsqu'ils ont été à l'écoute de l'apôtre Pierre, il nous est dit que lorsque Pierre va prêcher sous la puissance du Saint-Esprit à Pentecôte, il nous est dit clairement dans Actes chapitre 2, verset 38 et suivant, ils eurent le cœur, dites-moi la suite, vivement touché, vivement. C'est ça l'action du Saint-Esprit, c'est qu'il touche ton cœur. Il n'est pas encore en toi, mais il touche déjà ton cœur. Il suscite une réaction, une réponse. Il convainc. Il me convainc de mon besoin de pardon, d'être en ordre avec Dieu, de répondre à l'appel, et je me laisse convaincre par lui. Est-ce que j'ai devant moi des gens qui se sont laissés convaincre ? Vous êtes laissés convaincre. Le Saint-Esprit agit autour de vous et vous ne savez pas comment ça s'est fait, mais un jour vous avez été touché. Un jour, le Saint-Esprit était autour de vous et il vous a mis dans une situation et vous étiez quelque part convaincu que c'est bien Dieu. Ça, ce n'est pas un hasard, ça c'est Dieu qui est là, qui fait quelque chose. Dieu me cherche. Dieu me cherche. Dieu me cherche et il attend une réponse. Maintenant, lorsque je réponds à cet appel de Dieu, eh bien, il se passe là vraiment le côté surnaturel, le côté miraculeux. C'est que le Saint-Esprit va venir dans le cœur. Il est dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, procrète dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous êtes connecté au Père. Vous dites « Abba Père, je suis en relation, je suis en communion, je suis dans l'intimité de ta présence. » Le Saint-Esprit en vous, vous donne quelque chose que vous devez tous avoir ce matin, ça s'appelle l'assurance du salut. Quand vous êtes autour, le Saint-Esprit est autour de vous, vous n'avez pas encore l'assurance du salut, mais vous êtes touché, oui. Mais quand le Saint-Esprit vient en vous, quand vous avez reçu Christ, et vous savez, Christ doit d'abord faire son œuvre, par le Saint-Esprit bien sûr, une œuvre de purification. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un endroit sale qui est chargé du péché. Il faut d'abord la purification. Lorsque vous demandez pardon au Seigneur, la purification totale vient et le Saint-Esprit vient aussi. Il viendra à ce moment-là en vous. Et là, vous dites « Abba Père ». Vous dites « La communion est installée, elle est établie ». Vous le dites avec vos mots, vous le dites avec votre expérience personnelle. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu, vous le savez. Si ce matin, quelqu'un n'a pas l'assurance de son salut, il ne faudrait pas quitter ce lieu. Et nous le disons aussi dans nos camps d'enfants, il faut que l'enfant puisse non seulement être touché, mais recevoir l'assurance du salut. Parce que lorsque le jour de doute arrive, lorsque l'épreuve arrive, et qu'on est en train de remettre tout en question, on ne sait plus comment faire que croire et on croit avoir... On ne ressent plus la présence de Dieu. J'entends souvent des jeunes convertis qui disent « Mais je ne sens plus la présence de Dieu comme au premier jour. » L'assurance du salut ne vous est pas enlevée pour autant. Ne regardez pas tout ce que vous ressentez, c'est du côté de l'âme. C'est l'esprit de Dieu connecte à l'esprit, notre esprit, et vous êtes assuré de votre salut parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Il est juste parce que Jésus a payé le prix pour vous et il vous donne sa justice. Vous êtes juste devant Dieu. Donc il faut assurer votre être intérieur par la parole de Dieu, les promesses bibliques, que vous êtes dans l'assurance du salut. Ne doutez pas de cela. Lorsque vous avez demandé pardon, vous êtes justifié. Donc le Saint-Esprit va, dans ce côté surnaturel, il va habiter en vous et il va créer ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il va créer quelque chose de neuf. Il vous donne quelque chose que vous ne connaissiez pas, à savoir l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses sont le résultat de l'habitation, de la présence du Saint-Esprit en vous. Il crée quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une nouvelle vie. Quelque chose de nouveau démarre. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris grand-chose, mais vous savez que la vie est là. C'est comme quand il y a un bébé nouveau dans la maison. Il n'a encore rien fait du tout. Tout le monde tourne autour de lui. Il n'a encore pas ouvert la bouche, en tout cas, il l'ouvre peut-être tout le temps, mais c'est évident que la vie est là. Il n'y a pas besoin de démontrer quelque chose, pas besoin de faire une rédaction ou de faire un diplôme ou d'apprendre quelque chose. Il n'a encore rien fait, mais la vie, elle est juste là. La nouvelle naissance, vous savez que c'est vraiment la nouvelle naissance. C'est la vie de Dieu, c'est le nouveau changement. Quand vous doutez de votre nouvelle naissance, il y a un problème. Vous ne devez pas douter de votre nouvelle naissance. Même si on a des épreuves, même si on a encore des choses qu'il faut régler, la nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit qui vient et ce Saint-Esprit te donne l'espérance, te donne la joie, te donne la paix et te donne la force, le courage et la confiance. Quelqu'un devrait dire amen à cela, je pense, ce matin. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance que je lui appartiens et que nul ne me ravira de sa main. Aucune épreuve, aucun diable, aucun démon, aucune épreuve, aucune souffrance ne peut me ravir. Aucune épreuve, même la plus terrible. Je ne peux pas être lâché par le Seigneur parce que je lui appartiens. Et ce que Dieu a dans sa main, ce qui est sa propriété, il en prend garde, il en prend soin. Il veillera toujours sur vous. Quand lui appartenait. Donc j'aimerais d'abord clarifier que lorsque vous donnez votre vie à Christ, le Saint-Esprit vient, vous avez demandé pardon pour vos péchés, la purification a lieu, le Saint-Esprit vient, vous appartenez à Christ, il génère en vous la nouvelle naissance, et ce n'est que après que la Bible dit que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, revêtu, baptisé du Saint-Esprit. Dans la préparation au baptême que nous avons en ce moment, plusieurs posent cette question, mais parce que nous parlons des services de baptême dans les Actes, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 9 services de baptême enregistrés clairement dans les Actes, dans le livre des Actes des Apôtres. Et souvent, c'est en liaison avec le baptême du Saint-Esprit qui a lieu quasi en même temps, parfois avant, parfois après le baptême. Chez Corneille, c'est carrément avant le baptême. Dans le jour de la Pentecôte, c'est après le baptême. Repentez-vous, faites-vous baptiser, vous recevrez le Saint-Esprit. Puis après aussi, il y a plusieurs situations où le baptême du Saint-Esprit est en liaison avec le baptême d'eau. Et plusieurs demandaient, mais est-ce que si je ne parle pas en langue, est-ce que le Saint-Esprit est là? Mais oui, il est là. Mais oui, il est là. Comprenez bien et fixez ce point de doctrine clairement. Lorsque vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit, il est là. Et il ne va pas rentrer, partir, sortir, rentrer, il est là. Il est juste là, vous devez entretenir une relation avec lui, vous ne devez pas l'attrister, vous ne devez pas lui marcher sur les pieds, c'est une colombe délicate, il faut vivre la sensibilité du Saint-Esprit et vivre avec lui. Mais le Saint-Esprit est là, il génère ces choses nouvelles dont je viens de parler. Et le baptême du Saint-Esprit est juste cette dimension indispensable. Et je voudrais fixer ce matin une deuxième chose, pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez en ressentir le besoin. Vous devez pas juste dire « Oui, mais je suis dans une église où on parle de ça, donc c'est un peu le chemin par lequel tout le monde passe. » Ou bien c'est écrit dans la Bible, « c'est, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. » Vous devez, pour être rempli du Saint-Esprit, mes amis, et c'est un des points forts que j'aimerais souligner ce matin, vous devez en ressentir un besoin impérieux, impératif, un besoin urgent. Beaucoup veulent être remplis du Saint-Esprit pour différentes raisons. Par exemple, pour être bien, pour sentir quelque chose de plus. Certains cherchent le baptême du Saint-Esprit pour être plus fort, pour être conduit, pour entendre sa voix, connaître sa puissance, ressentir des frissons peut-être. Mais vous savez, nous recherchons parfois des choses rien que pour nous-mêmes. Rien que pour nous-mêmes, juste pour être... Ça tourne autour de nous. Alors Dieu n'est même pas contre cela. Dieu n'est même pas en train de dire, tant que tu n'auras pas un petit peu élevé le niveau, je ne vais rien te donner. Dieu est tellement bon que, quelles que soient nos demandes, même tournées autour de notre petite personne, Dieu nous donne quand même ses cadeaux. C'est juste incroyable. Tout comme nous donnons des cadeaux à nos enfants, même si c'est parfois pas toujours des demandes très sanctifiées, très, très spirituelles et très, très, très sages, très intelligentes. Nous sommes là parce que nous savons qu'ils sont en chemin et qu'ils n'ont pas besoin de tout forcément comprendre, passer tous les examens avant qu'on les aide. Le Saint-Esprit, de la même manière, il vient nous toucher, il vient nous remplir. Quand je suis étonné, je vois parfois des gens remplis du Saint-Esprit qui ont tellement de problèmes dans leur vie. C'est juste incroyable. Et ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont touchés, mais ils sont encore pratiquement nulle part dans leur vie, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Dieu se plaît à vous donner le Saint-Esprit. Mais il faut aller plus loin. Le Saint-Esprit n'est pas avant tout pour que vous vous sentiez bien, mais c'est un effet secondaire, on va dire. C'est un effet secondaire, c'est que vous êtes forcément bien quand le Saint-Esprit est chez lui. Quand le Saint-Esprit vous habite, vous êtes forcément, pas malheureux, mais le contraire, vous êtes heureux. Est-ce que quelqu'un est là ? Vous avez cette expérience, vous vivez cela. Mais le Saint-Esprit parle avant tout de Jésus. Il recentre notre vie sur Christ. Il prendra ce qui est à moi et vous le révélera. C'est ça que Jésus a dit. Avant tout, le baptême du Saint-Esprit n'est pas là pour qu'on sente plus de choses, pour qu'on ait plus de frissons et d'expériences extatiques ou que sais-je. Mais avant tout, les raisons sont autres. Il parle de Christ. Il désire, le Saint-Esprit, te transformer à l'image parfaite, Jésus-Christ. Il veut te transformer. Il veut te détourner de toi pour que tu ressembles davantage à Christ. Il veut que tu sois son témoin. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ce n'est pas avant tout pour nous-mêmes. Je vous dis encore une fois, il y a des effets secondaires qui sont juste magnifiques. C'est juste magnifique d'être rempli. Et le Seigneur sait qu'on a besoin de cette plénitude, qu'on a désespérément besoin de cette plénitude de vie, cette force de vie. Cette grâce de Dieu, j'ai besoin d'être rempli parce que sans le Saint-Esprit et cette plénitude, je suis encore partiellement vide. Seigneur, je veux cette plénitude parce que j'en ai besoin. Mais je reçois le Saint-Esprit et sa puissance pour avoir une influence, pour avoir un impact, pour que ma parole, mon témoignage, ma vie tout court puisse avoir une incidence sur quelqu'un. Ça doit être l'objectif. Et j'aimerais ce matin, puisse dire, Seigneur, j'aimerais que ton esprit en moi ait un impact dans le monde entier. Alléluia. J'aimerais que 7 milliards de gens soient touchés par mon témoignage. Bon, vous n'allez jamais toucher 7 milliards de personnes, mais il faut avoir une vision grande. C'est pour ça que je dis, la vision de l'Église de réveil doit être une vision pour toucher le monde entier. Le monde entier, par tous les moyens. Mais pour cela, il faut que le Saint-Esprit puisse s'exprimer et qu'il puisse nous transformer. Parce que ce ne sont pas des paroles, c'est une vie qui parle. Ce n'est pas vos paroles qui parlent, c'est votre vie avant tout qui parle. C'est votre vie qui parle. Votre comportement, votre attitude, dans le couple, dans la famille, à votre lieu de travail, dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est notre témoignage. C'est ça que Dieu veut utiliser. Et quand la lumière du Saint-Esprit est en nous, c'est comme si vous allumez une lampe très puissante là-dedans. Si vous avalez une ampoule de 1000 watts, je suis sûr que ça va rayonner dans votre corps. Bon. Mais si vous avez une lumière puissante en vous, ça va rayonner par vos yeux, par votre sourire, par votre vie tout court. Ça va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ce matin, j'aimerais vraiment prier pour ceux qui sont éteints. L'impression que vous avez la vie du Saint-Esprit, mais elle est tellement... C'est une lampe de 10 watts ou de 15 watts au lieu d'être de 1000 watts. C'est quelque chose du feu s'est éteint, quelque chose de la passion est parti. Ce matin, le Seigneur veut faire grâce. Il fait grâce. Il ne vous demande pas de passer un examen de plus, mais il vous fait grâce. Par contre, il veut que vous puissiez avancer. Pour être rempli du Saint-Esprit, il y a une chose à faire, une première chose à faire. Romains 12, verset 1 nous dit, « Présentez vos corps comme un sacrifice vivant. » Offrez votre corps. C'est par là que ça démarre. Il faut présenter votre corps. C'est le théologien Tozer qui dit ceci. comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Présentez-lui tout d'abord votre corps. Dieu ne peut pas remplir ce qu'on ne lui donne pas. Alors je vous pose cette question, êtes-vous prêt à lui présenter votre corps avec toutes ses fonctions, tout ce qu'il contient, votre intelligence, votre personnalité, votre esprit, votre amour, vos ambitions ? En un mot, tout ! C'est la première chose, présenter votre corps est un acte très simple et très facile. Et il pose la question, voulez-vous le faire ? Offrir, ça veut dire présenter votre corps, présentez-lui votre vie, abandonner votre vie pour qu'il puisse la remplir. Si je compare ma vie à un don, je reviens à une image de l'Ancien Testament qui est très courante, c'est que l'offrande ou le sacrifice était placé sur un autel. Et là, l'animal sacrifié était sur l'autel et à un moment donné, le feu devait descendre sur ce sacrifice, ou on devait allumer le feu, mais parfois le feu tombait du ciel sur le sacrifice. Si il n'y a rien sur l'autel de votre vie, s'il n'y a rien du tout dessus, il ne peut pas y avoir de feu non plus. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, si vous voulez que le feu et la passion du Christ, la passion de l'Évangile viennent dans votre cœur, vous devez être sur l'autel. Vous devez offrir votre vie comme un sacrifice. Romains 12, 1, je rappelle. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Et certaines personnes ont fait cette démarche justement, mais à un moment donné, ils ont dit, j'ai envie de descendre de l'autel et de faire un petit tour ailleurs. Non, restez sur l'autel. Ce matin, si vous voulez un renouveau dans le Saint-Esprit, vous devez remonter sur l'autel et dire, Seigneur, je te présente mon corps avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce que ça veut dire. Seigneur, je me donne à nouveau à toi. Pardon, Seigneur, d'être redescendu de l'autel. Et c'est pour ça que tu n'as pas pu mettre ton feu sur l'autel. Qui est sur le trône de ta vie ? Ensuite, il y a aussi une autre chose qu'il faut bien réaliser. C'est que le Saint-Esprit ne peut pas remplir un endroit qui est déjà plein. Vous comprenez cela ? Le Saint-Esprit remplit un endroit qui est vide. Si vous êtes rempli d'un tas de choses, si vous êtes rempli de vous-même et d'un tas de choses, le Saint-Esprit ne peut pas encore vous remplir. Vous devez d'abord être vidé de vous-même. Donc, cessons de tourner autour de nous et d'être rempli de mille et une choses. Je ne pourrais pas faire une liste ce matin, ce n'est pas utile forcément, mais soyez vidé de vous-même. Soyez vidé de vous-même. C'est là que je commence à devenir utile pour le royaume de Dieu. Les premiers chrétiens étaient touchés. Ensuite, ils ont été remplis. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut vraiment avoir soif. Il faut être rempli du Saint-Esprit, je me répète en disant, c'est écrit dans la Bible, c'est ce que nous prêchons dans notre Église. Mais vous devez intérieurement en ressentir le besoin et avoir une soif. Il faut qu'être rempli du Saint-Esprit soit quelque chose de précieux à dénicher, à découvrir, à saisir. Vous devez comprendre que être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose de précieux. C'est une perle que vous allez chercher, c'est un trésor que vous allez chercher. Et vous allez tout vendre pour avoir cette perle, tout vendre pour avoir ce trésor. Mes amis, si on vous donne, admettons que vous avez déjà trois voitures dans votre garage et quelqu'un vient vous offrir une quatrième voiture. C'est un beau cadeau, une voiture de plus. Mais vous en avez déjà trois, pourquoi faire une quatrième ? Donc ce n'est pas un cadeau que vous allez apprécier forcément. Quand vous avez déjà beaucoup et qu'on vous donne un cadeau de plus, c'est... Mais quand vous avez quelque chose qui vous manque vraiment, et que ça ne vient pas, vous n'avez pas les moyens pour l'avoir. Et puis lorsque quelqu'un, à un moment donné, a vu qu'il vous manque ça, et il vous offre ça, alors le cadeau a de la valeur, n'est-ce pas ? Alors le cadeau a de la valeur. Il faut que le baptême du Saint-Esprit soit vraiment quelque chose qui vraiment correspond à mon besoin et à ma soif. Je dois comprendre que j'en ai vraiment besoin, Seigneur. Et que c'est tellement précieux, Seigneur, c'est tellement précieux. L'huile du Saint-Esprit, c'est une huile tellement précieuse. C'est l'huile qui vaut des millions par litre, je sais pas. C'est une huile tellement précieuse, c'est le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit précieux, 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 très précieux. Il faut que nous désirions les choses précieuses, pas juste des choses superficielles, mais précieuses. Quel prix est-ce que je suis prêt à donner pour avoir ça? Je considère le prix que Jésus a payé pour moi. Et en retour, je désire offrir le même prix, ma vie. Nous devons avoir soif. Et si ce matin, quelqu'un a perdu cette soif, a perdu cette passion, Dieu veut vous la redonner. Et vous savez comment on maintient la soif? Il faut être en contact avec des gens assoiffés. Il faut être en contact avec des gens qui ont soif. Si vous êtes en contact avec des gens qui parlent tout à fait d'autre chose en permanence, ce n'est pas là que vous allez nourrir votre soif. Mais vous devez être dans une église où on a soif de Dieu. Est-ce que je suis ce matin dans l'église des assoiffés de Dieu? Alléluia! Des assoiffés de Dieu. Ceux qui veulent du Seigneur, pas pour eux-mêmes avant tout. Même si c'est une composante bienfaisante et bénéfique et nécessaire, c'est avant tout parce que nous avons des millions de gens à atteindre, mes amis. Ces millions de gens sont en train de partir vers l'enfer et la perdition. Nous devons faire quelque chose. Nous recevons la puissance pour qu'ils puissent être touchés. Nous ne pouvons pas simplement fermer nos yeux et dire « ça ne me concerne pas, je ne peux rien faire ». Si tu peux faire quelque chose, ta vie parle. Mettons tout en œuvre, mes amis, tout en œuvre, tout en œuvre. Quelque chose qui m'a touché, c'est découvrir que le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte. Il n'est pas tombé n'importe quand. Ça correspondait parfaitement à une fête juive qui s'appelle Shavuot. La fête de Pentecôte, c'était donc une fête qui existait dans l'Ancien Testament, où on rappelait le don de la loi dans le désert, mais aussi on offrait les premiers fruits. C'est le temps, en Israël, c'est le temps de la moisson. Ça commence. Alors la première gerbe, encore un peu verte, était coupée et on l'offrait à Dieu le jour de Shavuot. Maintenant, il y a une autre fête qui va arriver, c'est Soukhot. Ça, c'est l'automne, septembre-octobre. Et à Soukhot, c'est donc la fête des huttes, des tabernacles, là, on offrait les autres fruits, les fruits tardifs, tout ce qui était des fruits de l'automne, de blé, l'orge, tout ça, c'est rentré. Maintenant, il y a encore les pommes, il y a toutes sortes de choses, les raisins, tout ça. Et le fait que Pentecôte, c'est Shavuot, ça veut dire les premiers fruits sont pour Dieu. Ça veut dire, il faut que dès que tu sentes l'appel dans ton cœur, il ne faut pas que tu attendes l'automne pour répondre. Il faut que tu répondes tout de suite, offre ta petite gerbe encore verte, offre-la au Seigneur, offre ta vie, viens tout de suite au Seigneur, viens dès que tu es appelé, viens au Seigneur. N'attends pas d'être l'ouvrier de la dernière heure pour enfin répondre sur ton lit de mort. N'attends pas l'automne, n'attends pas les fruits tardifs pour dire « C'est vrai, Seigneur, tu reviens bientôt » parce que Sukkot, c'est aussi le retour de Jésus en langage prophétique. « Seigneur, tu reviens bientôt, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose. » Non, rachetez le temps. Ne vous laissez pas mettre sous pression par les événements pour dire « Ben, j'ai plus de choix maintenant, il faut que je me donne au Seigneur, sinon je vais être perdu. » Non. Soyez dans les premiers fruits. Est-ce que quelqu'un veut donner les premiers fruits ce matin? Shavuot, c'est les premiers fruits, c'est ça Pentecôte. On donne sa vie quand c'est possible. Viendra des temps où vous dites, j'y prends plus plaisir. J'y prends plus plaisir. L'Ecclésiaste dit cela. Et la plupart des gens se convertissent quand ils sont jeunes. Quand ils sont jeunes. C'est pour ça que nous encourageons le travail parmi les enfants, les adolescents et les jeunes. Nous motivons cela, nous mettons une priorité dans nos prières et dans nos finances et tout, dans les ministères, pour que justement cette génération-là, qui est beaucoup plus facile à toucher que la dernière génération, qui a aussi besoin de nos soins, bien sûr, mais le fait est que c'est Shavuot, le début de la moisson, c'est là que ça marche le mieux, c'est là qu'on offre et c'est là qu'on a toute la vie devant soi et toute une vie réussie. C'est à la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas trop prolonger. Juste, j'aimerais que nous puissions avoir soif ce matin. Soif. Soif de Dieu. Le cantique des cantiques dit, prends l'image de cette personne qui est amoureuse. Elle est couchée sur un lit. Elle est bien, puis elle rêve, elle rêve, elle rêve, elle rêve de son bien-aimé. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Mais, à un moment donné, elle veut rencontrer son bien-aimé et elle a de la peine à se lever. Elle reste encore couchée. Et elle continue à rêver, je cherche mon bien-aimé, j'aimerais tellement près de lui. Puis alors elle se lève à un moment donné et elle fait le tour de la ville et elle n'a pas trouvé. Bon, elle rentre, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle se lève une deuxième fois dans la nuit, poussée par la soif, poussée par la passion de l'amour, le feu qui est en elle. Elle se lève encore une fois, elle fait le tour et elle est arrêtée par les gardes de la ville. Et elle dit, où vas-tu? Mais laissez-moi tranquille, je veux passer, je cherche mon bien-aimé. Est-ce que vous l'avez vu? Non, on n'a rien vu. Et à peine elle avait passé les premiers obstacles qu'elle a rencontré son bien-aimé. Et elle va dire dans la parole, je l'ai cherché, je l'ai trouvé et je ne l'ai plus lâché. Alléluia. Quand vous trouvez, vous ne devez plus lâcher la passion. Si quelqu'un ce matin a perdu sa passion, son feu et sa soif, c'est le moment de recevoir. C'est un temps de grâce pour recevoir une fois de plus. Ce qui était pour moi des gains, dira l'apôtre Paul, je les considère comme des pertes. Il faut que ce soit la priorité, il faut que ce soit précieux, il faut que ce soit un prix à dénicher, le baptême du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, vous recevrez la force, la force. Qui aurait parié, ne fût-ce qu'un copec, sur Pierre, Jacques et Jean? Qui est-ce qui aurait parié sur eux? Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont révolutionné le monde. Ils n'avaient jamais été plus loin que le lac de Galilée, c'était leur milieu, c'était leur vie. Ils n'avaient jamais été plus loin que leur barque les emmenait. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, ils sont devenus les apôtres qui ont révolutionné le monde et dont la Bible parle aujourd'hui. Il peut utiliser n'importe qui, rempli de la force, rempli du Seigneur, transformé à son image, prêt à tout pour lui. La force, elle va venir lorsque vous allez vous mettre en route. J'aimerais encore juste dire ça. Vous n'allez pas pouvoir mesurer la puissance d'une voiture si vous faites boum, boum dans votre garage. Si vous avez une voiture, je ne sais pas n'importe laquelle, qui a 500 chevaux, ça existe même plus, et vous faites boum, boum dans le garage, vous ne vivez rien de cette puissance. Il faut que ça roule. Hein? C'est évident. Prenons Usain Bolt, un sprinter, le meilleur sprinter du moment, des 100 mètres. Si vous êtes assis avec lui dans un fauteuil en train de boire un café, vous n'allez jamais voir sa puissance de sprint. Vous devez le voir sur le terrain. C'est là que la puissance se déploie complètement. C'est sur le terrain que la force du chrétien va se voir. Ce n'est pas simplement en restant chez vous. Parfois, il faut l'être pour être là où Dieu nous veut, mais lorsqu'il faut sortir, il ne faut pas rester sur place. C'est parce que c'est quand nous partons, quand nous allons, le Seigneur est avec nous et c'est là que sa force se déploie. Je termine par une dernière chose. À la Pentecôte, ils ont reçu la puissance, ils ont eu l'impact, il y a eu le feu, bien sûr, mais il y a eu quelque chose que j'aimerais vraiment souligner en terminant. Une des actions du Saint-Esprit, c'est de nous rassembler. Il était question que dans le jour de Pentecôte, les gens étaient de partout du monde entier, de l'époque bien sûr, tous les juifs de partout étaient rassemblés et chacun entendait le message de l'évangile dans sa langue maternelle. Ça veut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il est à l'œuvre, lorsqu'il y a l'onction du Saint-Esprit et le message du Saint-Esprit, il sait vous parler dans votre cœur, toucher vraiment votre cœur dans votre langue maternelle. Il sait vraiment rejoindre parfaitement votre besoin. Et en même temps, il rassemble les gens. Et nous voulons que notre Église soit une maison de prière pour toutes les nations. C'est le plan de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste un ou deux peuples. C'est le maximum de peuples unis par le même esprit. Par le même esprit. Est-ce que nous sommes toujours d'accord avec ça ?